intérieur. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir et bienvenue, bienvenue à Bulle, sur la route de la Tcha. Ah bah ça c'est le côté patois de la région de Bulle. Alors la verte gruyère, très franchement ces jours, c'est la blanche gruyère, c'est très beau, il fait froid. Je suis sur un seuil de porte et j'ai trouvé enfin la maison. Je vais sonner à la porte de François Gachou, le professeur François Gachou qui a enseigné la philosophie, qui est aujourd'hui retraité, la petite septantaine, pas encore, bientôt, l'année prochaine, dans quelques mois. Et le professeur Gachou, François Gachou est un auteur, il est aussi un alpiniste, c'est un homme qui fréquente les philosophes grecs depuis tellement d'années. Il pose des questions aux autres, il se les pose et n'y répond pas toujours. Et c'est à lui qu'on va poser des questions philosophiques ce soir. Il a été admirateur de Jeanne Hersch, mais il l'est aussi de Socrate, de quelques autres, de tous les grands, de Kant, de Hegel, de tous les gens que je n'ai pas lus, évidemment. Et d'ailleurs, François Gachou, je ne l'ai pas lu non plus. Mais une rencontre, c'est comme quelqu'un qu'on voit dans un magasin. Il nous plaît et on a envie de lui parler. François Gachou, il vient de m'ouvrir la porte, porte d'une maison contemporaine. Bonsoir, François Gachou.
Bonsoir, Monsieur Fazan.
Je dois... Il y a les pelles et les balais pour chasser la neige qui s'effondrent au moment où vous m'accueillez. Vous êtes un homme pratique ?
On a eu des quantités de neige là tout récemment. Alors je me suis armé d'une pelle et d'un balai parce que j'avais pas le choix.
Et puis vous aviez une entrée, vous m'avez dit, j'ai trouvé cette entrée particulière dans cet immeuble qui est relativement banal et contemporain.
Tout à fait. Oui, c'est un immeuble qui a la chance d'être fort bien placé parce qu'on est un peu en dehors de la ville de Bulle, mais on est tout près quand même de la dite ville. Et puis alors, on est ici au bord de la Trême qui coule là devant ma terrasse.
Oh bah attendez, on voit rien. Alors pour l'instant, il fait nuit. Je me permets d'entrer, François Gachou. Je crève de froid. Il faisait froid dehors sur votre seuil. Et puis, je suis super heureux de vous rencontrer. On s'est rencontrés récemment. Et puis, on a une petite conversation qui m'a tellement plu. J'avais envie de percer le secret de la philosophie, de ceux qui enseignent. Pourquoi avez-vous été un philosophe, un chercheur, admirateur des grands philosophes? Pourquoi? Vous étiez fait pour, puisque vous en avez vécu toute une vie?
Écoutez, vous me posez là à la fois une immense question, puis quelque part une question assez banale, dans la mesure où je crois que tout être humain qui se pose des questions sur l'existence, sur la vie, sur les autres, sur la liberté, sur la vie après la mort, etc., et philosophe, dès là qu'il se pose la question.
Alors quand je vais à la COP à la Migros, et puis que je pose une question aussi banale, pourquoi êtes-vous là, que pensez-vous de la vie et de la mort, je vais susciter des réponses philosophiques de grande qualité ou non?
Je vais peut-être pas susciter des réponses, mais je vais en tout cas essayer de susciter un questionnement, et dans la mesure où la personne se sent elle-même concernée par la question, elle peut, je dirais, devenir philosophe. Ce qui ne veut pas dire qu'elle en fasse son pain quotidien, évidemment. Pour ce qui me concerne, l'âge de 16-18 ans, lorsque j'étais aux études, j'ai eu la chance d'avoir un prof de philo assez remarquable, enthousiasmant, qui savait justement poser les grandes questions et qui savait aussi nous introduire à de grands philosophes qui essayaient d'y répondre. D'où la fréquentation des philosophes eux-mêmes.
Alors, être un philosophe qui est capable de stimuler des élèves de 15 à 18 ans ou à 20 ans ou davantage, puisque vous avez aussi enseigné à l'université du soir, c'est y répondre ou c'est simplement poser les questions auxquelles vous n'avez pas répondu vous-même?
En général, ils attendent, je dirais, du prof qu'il les aide un peu dans leur propre questionnement. Autrement dit, il faut savoir se mettre à la portée de la personne en question, parce que la manière de poser la question est assez individuelle, selon les circonstances de la vie de cette personne, ou bien selon tout simplement l'appétit de savoir qu'elle manifeste. Par conséquent, entrer en dialogue quand il s'agit de philosophie, c'est rejoindre, je dirais, d'abord la personne dans le lieu de son questionnement, lui renvoyer la question, pourquoi poses-tu cette question, et comment vois, te situes-tu, toi, par rapport à la question. Et puis après, l'inviter à choisir parmi quelques grands philosophes un texte sur la question qu'il pose, et puis essayer de l'orienter, de la faire travailler un peu sur ce texte, si elle veut bien.
Alors, et François Gachou, vous avez répondu à tout?
Non.
À rien?
Ni à rien.
C'est entre deux.
Ni à rien, ni à tout, parce que je pense que c'est un cheminement. Et qui dit cheminement, dit qu'on pose des jalons, qu'on met en place les procédures, une certaine méthodologie peut-être, et puis ensuite, on y va dans la recherche. Je pense que l'homme est un être qui est en éternel état de questionnement dans sa vie, même s'il ne pratique pas quotidiennement la philosophie. Mais je pense que la quête du sens, dont nous sommes, je crois, tous friands, est peut-être la chose la plus viscéralement ancrée dans notre cerveau. La quête du sens.
François Gachou, la quête du sens. Là, je suis dans la quête du décor un tout petit peu. Chez vous, dans votre entrée ici, il y a un sublime tapis de prière qui est suspendu. Il n'est pas immense. Il fait 45 cm sur 60-70 cm. C'est un, je le reconnais. Enfin, je le reconnais dans son style. C'est un tapis turc, erekiye, comme on le dit là-bas, en soie pure. Il est splendide. Vous êtes un athée? Vous croyez à la prière? Et pourquoi est-il là?
Alors, précisons tout de suite que je ne suis pas athée. Là, évidemment, je parle d'un choix personnel qui n'est pas lié à la question que vous me posiez tout à l'heure à propos de la philosophie. Parce que la philosophie, en tant qu'elle est philosophie, est neutre par rapport aux croyances religieuses. Il arrive que les philosophes soient ou athées ou croyants, mais ça n'est pas nécessairement lié à une théorie philosophique. Bien qu'il y ait des philosophes qui ont aménagé des démonstrations ou des essais de démonstration, par exemple, à propos de l'existence de Dieu. Mais pour en revenir alors à ce tapis de Ereke, qui est en effet magnifique, c'est un tapis de prière que j'ai acheté à Istanbul il y a quelques années. Ce qui m'a ébloui dans ce tapis, c'est d'abord la composition extraordinaire de cet arbre de vie, qui est en même temps un arbre de la connaissance et de l'élévation, et puis la variation des couleurs selon la lumière. C'est pour ça que je viens maintenant là d'allumer la lumière, puisque nous sommes le soir, pour qu'on puisse regarder, en le bougeant un petit peu, ce tapis, ces variations de couleurs.
Alors une fois il est pastel, il est en pure soie, une fois il est foncé, etc. Moi je trouve que c'est une belle allégorie de l'existence. Selon l'angle dans lequel on regarde ce tapis et cet arbre de vie, il est pastel, il est clair ou il est sombre.
C'est vrai. Mais je dirais que ce qui me touche dans cette œuvre, c'est deux choses. D'abord, je pense à ces très jeunes filles qui ont noué tous ces milliers de points pour le réaliser, avec une patience infinie, et puis avec un sens de la précision et de la sensibilité artistique, moi qui m'émeut, parce que c'est une composition en forme d'arabesque, en forme de fleurs, des motifs végétaux, et puis en même temps, vous avez là des éléments artisanaux, comme le vase par exemple, d'où éclot cette montée de l'expression de la vie. Et je pense que ce tapis symbolise certainement un acte religieux si on prie le Allah, puisque en fait c'est le contexte musulman ici de l'art arabe, ou alors on rejoint l'intimité de la personne qui, en état de prière, peut être inspirée par ce genre de tapis.
Alors on est là dans sa beauté. On est là dans cette zone étrange. La réalité de ce tapis, de cette soie, de ces petites mains qui ont travaillé, quelquefois on culpabilise d'acheter de telles œuvres, hein, je crois que c'est un peu le cas.
J'ai un peu culpabilisé au moment de l'achat, je dois dire, j'ai hésité parce que je me suis dit finalement, est-ce que tu n'es pas en train au fond d'exploiter ces filles qui ont patiemment noué ce tapis pendant des mois? Et puis en même temps, je me suis dit non, on peut aussi leur rendre hommage en contemplant leur œuvre parce qu'il est là maintenant chez moi depuis des années.
Alors c'est une œuvre concrète et vous travaillez dans l'idée philosophique tout le temps en brassant des idées abstraites. Alors on va rentrer dans votre salon si vous êtes d'accord, mais François bon, Gachou, vous me faites visiter. Alors une table à laquelle on doit manger, mais là pour l'instant on mange des mots et des livres parce que vous y travaillez. Vous êtes chroniqueur pour La Liberté, vous travaillez beaucoup, vous lisez beaucoup, puis tous vos bouquins sont là, enfin une grande partie des livres présents.
Disons que ce qui est ici, c'est une partie des livres en effet que je travaille et que je reçois d'un certain nombre d'éditeurs, puisque en effet, comme vous venez de lire, je suis chroniqueur pour les essais La Philosophie au journal La Liberté. Alors je lis en effet beaucoup de livres, et puis c'est des livres difficiles, abstrait comme vous venez de le dire, mais souvent profond. Et puis mon boulot, c'est d'essayer de rendre ces livres accessibles au grand public pour leur donner le goût de les découvrir eux-mêmes, parce que je fais moi-même librement le choix de ces livres, j'en reçois pas mal, mais je n'écris pas sur tous ceux que je reçois. Alors je les pose ici sur cette table qui est en effet la salle à manger. Alors la moitié de la table est consacrée aux livres et le reste au repas. Comme quoi, au fond, on peut fréquenter les livres comme si on allait entrer en eux en compagnie d'un bon repas. C'est un repas de lire aussi, quelque part, à mon avis. Mais
on est bien dans les allégories, là, maintenant.
On est tout à fait dans les allégories. Et puis, vous voyez, il y a des livres de différentes factures. Ici, il y a ce très beau livre de Lita Basset, Aimer sans dévorer, que je conseille vraiment de lire à tout le monde.
Alors, c'est une pasteur romande qui enseigne la théologie, qui a, hélas, il y a quelques années, fait beaucoup parler d'elle en écrivant sur la mort et le suicide de son fils, qui a été une femme admirable et qui l'est toujours.
Absolument. Et ce livre est peut-être... Moi, je dirais que c'est le livre d'un long aboutissement de vie qui a passé par l'épreuve et qui a su parler de l'amour d'une manière prodigieuse, à mon avis, vraiment profonde. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai présenté dans un article qui a paru récemment avec un autre livre en contrepoint, un livre de Pascal Bruckner, « Le mariage d'amour a-t-il échoué ?» Et puis, comme il me semblait que Bruckner ne répondait pas à certaines questions, et il me semblait que Lita Basset essayait d'y répondre magnifiquement et peut-être plus profondément que Bruckner, je me suis dit, je mets en contrepoint ces deux livres pour en parler. Voilà pourquoi il y a ce livre-là. Oui, vous en avez un autre là sur lequel on tombe.
On a l'impression d'être chez un bibliothécaire, c'est formidable.
Discours de réception de Jean-Luc Marion à l'Académie française. Jean-Luc Marion est un philosophe français qui vient d'entrer à l'Académie succédant au cardinal Lustiger. Jean-Luc Marion est un laïc, il enseigne à la Sorbonne. J'ai la chance de le connaître personnellement, puis il m'a envoyé son discours de réception.
Publié chez Grasset.
Et puis alors, on va inviter Jean-Luc Marion à l'université de Fribourg au mois de février prochain. Je sais même la date, si ça peut intéresser des auditeurs. Le 7 février, qui est un lundi, à 19h30 à l'université de Fribourg.
L'âge des possibles, cette chanteuse porte un nom prédestiné pour cette émission. Elle s'appelle Marie Espinosa.
Intérieur sur la première.
On déroule les jeunesses, mais c'est l'embouteillage, mais mes feux de détresse. Pour sortir de mon âge, je veux pas qu'on me laisse sur une voie de garage. La vie passe en vitesse et en caisse pour finir à la casse. Embourbée dans ce guépier, au carrefour de la chance, je lance les dés. Je fonce, après je pense, je me défonce, je me démène, sans savoir où ça mène, sans savoir où je m'enfonce. Je suis toujours à la traîne, à la traîne. C'est l'âge des possibles, j'en gravirai des cimes, cœur vaillant, invincible. Et même si je m'abîme, si j'y laisse les plumes, je décrocherai la lune. La lune. Et je lutte et je chute, je marche et j'en crève. Quand je monte le but, je tombe, je me relève. Je ne sais pas le comment, du pourquoi, j'ai la vie devant moi. La valeur n'attend pas le nombre des années. Pourtant moi, j'attends là, sans me faire remarquer. Devant moi, je ne vois que des portes fermées. Et mes rêves sans emploi, ils me servent à quoi ? J'ai peur mais j'avance. Tant pis si rien n'est sûr. Qu'on me donne ma chance ou je vais dans le mur. Car la vie qui commence, c'est la vie à la dure. Le temps de l'innocence. Non mais je vous jure, je vous jure, c'est l'âge des possibles. J'en gravirai les cimes. Cœur vaillant, invincible. Et même si je m'abîme, si j'y laisse des plumes, je décrocherai la lune. La lune. Et je lutte et je chute. Je marche et j'en crève. Quand je manque le but, je tombe, je me relève. Je ne sais pas le comment, du pourquoi. J'ai la vie devant moi. Ignorance, impuissance, espoir fou et détresse. Et aussi l'arrogance, la force, la faiblesse. Arrêtez vos romans sur la belle jeunesse. Si vous l'aimez tellement, eh bien je vous la laisse. Eh bien je vous la laisse.
Marie Espinosa qui chantait L'âge des possibles. C'est étonnant, François Gachou. Spinoza, c'est le grand philosophe que vous avez admiré, qui fait partie avec Socrate, Platon et quelques autres, dans votre philo, dans votre vie et dans les événements marquants de votre existence, en ouvrant ces livres, en essayant de les saisir, et ces œuvres qui vous ont marqué. Spinoza, c'est lisible aujourd'hui, c'est contemporain encore.
Spinoza, c'est assez difficile à lire, hein. Si on lit justement sa grande œuvre qui est l'éthique, on parlait de l'éthique, eh bien c'est écrit comme un traité de géométrie, donc c'est pas très accueillant apparemment, mais il y a beaucoup de livres qui ont paru sur Spinoza qui sont d'excellentes introductions. Et au fond, Spinoza, qui était un philosophe juif mort assez jeune et qui a d'ailleurs été persécuté par sa propre communauté parce que précisément il était assez critique à l'égard de la religion. Spinoza était un philosophe puissant, profond, novateur, même si il était, comme on dit, panthéiste, c'est-à-dire que pour lui, le tout de la nature et le tout du divin ne faisaient qu'un. Et ce qui m'impressionne le plus chez Spinoza, c'est pas tellement cette théorie panthéiste qui est restée assez connue, c'est plutôt ses textes sur le bonheur. Parce que chez Spinoza, on trouve parmi les plus beaux textes sur le besoin que l'homme a d'être heureux.
François Gachou, on entre dans votre salon, un tapis de Chine, de jolis meubles, des meubles anciens. On va s'asseoir et puis continuer de parler philosophie d'une certaine manière. Lita Basset parlait et parle souvent et a beaucoup parlé du chagrin. Vous venez de parler du bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose dont tout homme, aujourd'hui contemporain ou d'autrefois, il y a 10 000 ans, il est en recherche de ça. Vous êtes un homme aujourd'hui heureux ou vous êtes un homme qui a été laminé par certains chagrins? Avez-vous réussi à sortir de cette situation difficile qu'est le chagrin, si vous en avez vécu?
Oui, vous posez là, je crois, une question qui me fait penser à une phrase de François Mauriac qui disait ceci, qu'un homme qui n'a jamais souffert est un homme qui n'a pas vécu. Il est bien entendu que la souffrance est toujours une épreuve et que la souffrance n'est jamais souhaitable pour quiconque. Cependant, je ne crois pas qu'on puisse traverser une vie humaine sans passer par la souffrance, c'est-à-dire surtout la souffrance morale. Parce que la souffrance physique, on peut maintenant la soulager assez bien, même jusque dans des âges très avancés, comme dans les cas des EMS avec les soins palliatifs, on arrive à soulager assez bien, je crois, la douleur physique. Mais la souffrance morale, quand elle nous atteint comme une épreuve, est quelque chose qui est difficile à traverser. Et je pense qu'on ne doit jamais juger de l'épreuve de quelqu'un qui traverse la souffrance. Vous parliez de chagrin. Moi, je dirais que le chagrin, c'est l'expression d'une peine qui a besoin de sortir, de se manifester. Mais je dirais que la souffrance, c'est l'épreuve intérieure la plus intime qui soit d'une sorte de destruction de soi qui nous arrive malgré nous et qui nous laisse impuissants pour la conjurer, du moins dans un premier temps. Alors, puisque vous me posez la question, oui, j'ai traversé des moments d'épreuve assez grandes. En tout cas, j'en ai eu deux. J'ai notamment fait une dépression à un moment donné de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, quand j'ai traversé ce moment de dépression, qui a tout de même duré quelques mois, je me suis dit, au fond, c'est peut-être l'occasion pour toi de mieux comprendre les autres, de mieux chercher, puisque tu es un peu philosophe, qu'est-ce que c'est la compassion? Comment peut-on accompagner autrui lorsqu'il souffre? Alors, je dirais, ne faisons pas de grandes phrases, ne soyons pas trop fiers, on n'arrive jamais à se mettre à la place d'une personne qui souffre. Mais on peut au moins l'accompagner en l'écoutant. Et c'est ce que cette épreuve que j'ai traversée personnellement m'a fait découvrir. J'ai été écouté par une ou deux personnes qui, sans qu'elles le sachent peut-être elles-mêmes, m'ont permis d'apprendre à avoir un peu de compassion pour autrui, puisqu'elles m'ont aidé à surmonter.
Mais pourquoi ne le savent-elles pas? Pourquoi ne les avez-vous pas remerciées, ces personnes? Ne leur avez-vous pas dit qu'elles vous apportaient, grâce à leur écoute, ou leur compassion, ou le partage, ou l'empathie, quelque chose d'important pour vous? Vous êtes à ce point-là pudique pour ne pas le leur avoir dit merci, merci, merci?
Oui, je le leur ai exprimé, mais plus tard. Et c'est vrai que une certaine pudeur faisait peut-être que je n'osais pas le dire, mais je les ai remerciés parce que ce sont deux personnes qui ont été très proches dans ma vie. Et puis, il y a autre chose, n'est-ce pas? Je pratiquais beaucoup la montagne parce que je l'ai pratiquée toute ma vie. Et j'ai retrouvé un certain équilibre dans la fréquentation assez solitaire, je dois dire, de la nature, une fréquentation plutôt méditative qui m'a permis ce qu'on appelle aujourd'hui de découvrir une certaine capacité de résilience, c'est-à-dire de surmonter l'épreuve par la fréquentation d'un milieu ambiant.
De l'effort.
Et puis l'effort, évidemment, parce que je crois en effet que quand le corps se dépense physiquement, il libère non seulement des énergies, mais il libère aussi intérieurement quelque chose qui se soulage par là même, n'est-ce pas, qui trouve son exutoire, sans vouloir appuyer trop fort sur le terme, mais qui crée une plage d'apaisement possible, voilà.
François Gachou, il y a ce livre d'ailleurs que vous avez écrit, Sagesse de la montagne, une expérience intérieure, qui est préfacé d'ailleurs par Jean Troyet, le grand évrétiste, comment est-ce qu'on dit, himalayiste?
Himalayiste, oui, je crois que c'est le terme qu'on emploie.
Il est aussi andiniste et alpiniste, évidemment. Donc, ce livre est paru aux éditions Saint-Augustin, on le trouve encore, et vous en parlez admirablement bien. Il y a aussi, dans la philosophie, l'obligation d'aller chercher au fond de soi et au fond des autres dans cet échange. Donc, l'obligation aussi, quelquefois, de se révéler soi-même, donc de briser sa propre pudeur. C'est facile à vivre ça en classe avec des élèves, ou demander ça à des jeunes ou à des gens qui sont enseignés, de lâcher ou alors on peut faire de la philosophie sans s'impliquer vraiment?
Je pense pas qu'on puisse vraiment, quand on enseigne à des jeunes, en quelque sorte donner le change, comme si on pouvait donner un cours tout à fait neutre, comme quand on enseigne, je sais pas moi, la physique ou les mathématiques, on peut ne pas s'impliquer du tout. Mais lorsqu'on pose des questions philosophiques, je pense que les jeunes sont si réceptifs, et je trouve que c'est un bonheur de pouvoir les ouvrir à cela, ils sont si réceptifs que eux-mêmes disent beaucoup de choses à ce moment-là, parlent de leur subjectivité, de la manière dont ils vivent certaines questions. Et nous, si on veut les rejoindre, je ne veux pas dire qu'on doit passer à la confession, il ne s'agit pas de ça, mais on peut très bien les rejoindre en leur disant, voilà, tu parles là d'une question qui peut représenter en effet quelque chose de très personnel. Et ce personnel-là est toujours impliqué. J'aimais bien leur citer cette phrase du grand philosophe allemand Heidegger, qui disait que quand l'homme pose une vraie question en philosophie, c'est qu'il est toujours lui-même inclus dans la question qu'il pose. On peut poser la question du sens de l'existence, mais on ne peut pas la séparer de moi qui suis dans cette question, parce que je dois construire moi-même le chemin, la finalité, et puis je dois motiver mes choix. La liberté, c'est fondamental. C'est le privilège de l'homme de pouvoir lui-même, au fond, complètement, de manière autonome, pouvoir dire « Je choisis telle orientation de vie, je choisis tel partenaire dans ma vie, je choisis tel métier, ou je choisis de croire plutôt que de ne pas croire, etc. »
François Gachou, vous savez que mon métier est de poser des questions et qu'un jour Bernard Pichon m'a donné cet exemple magnifique. On ne pose jamais une question si on n'a pas une vraie curiosité, c'est-à-dire que si on en connaît la réponse, on ne pose pas la question à la personne qui est en face de vous. Pensez-vous qu'il y a aussi allégorie entre la question du journaliste envers l'interviewé et ce questionnement philosophique que vous venez d'évoquer?
Oui, tout à fait. Certainement. Il y avait des fois des étudiants qui trouvaient que les questions qu'ils posaient étaient bêtes. Et j'ai connu même des collègues profs qui disaient à certains élèves, tu poses là une question idiote. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des questions idiotes. Je crois que l'ignorance est la condition même dans laquelle nous sommes nés et dont nous avons commencé à grandir. Par conséquent, quand les enfants posent des questions, quand ils ont 4-5 ans, ils sont pleins de questions. On ne sait souvent pas répondre à leur pourquoi, qu'ils vont très loin. Mais ils ne posent jamais des questions idiotes, même si à nous, elles peuvent nous paraître être telles. Alors je crois que l'intelligence est présente toujours dans le questionnement et qu'il ne faut jamais préjugés de la valeur de telle ou telle question. Parce qu'il y a des questions plus importantes que d'autres, il y a des questions plus anecdotiques, etc. Mais on fait la part des choses, et puis on discute. Et un des travaux de la philosophie, d'ailleurs, c'est justement savoir comment poser de bonnes questions. Et savoir, une fois qu'on l'a posée, cette question, comment cheminer. Étant entendu qu'il n'y a jamais de réponse toute faite.
Alors, je ne vous pose pas cette question. Vous connaissez les Rolling Stones, mais ça, j'en suis certain, c'est une affirmation. C'est Honky Tonk Woman.
Une visite intérieure pour parler de soi.
Just can't seem to drink it out my mind.
c'était les Rolling Stones. On est, alors c'est génial, les Rolling Stones, le soir comme ça, la nuit, avec François Gachou, écouter ça à Bulle dans sa maison, avec ses livres sur la table du salon. On va peut-être quitter le salon dans un moment, François Gachou, si vous êtes d'accord, vous me faites visiter une autre pièce de la maison. Mais il y a sur cette table des livres que vous avez écrits, qui sont parus. Il y a Par-delà l'athéisme, qui est préfacé par Luc Ferry. C'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf. Et puis, il en paraîtra encore un autre aux éditions du Cerf à Paris, prochainement, qui est Vertige. Alors là, vous m'avez montré le temps d'écouter les Rolling Stones. La préface. Alors, ça s'appelle « La philosophie comme exercice du vertige ». J'ai lu l'avant-propos. Et puis, il y a ces mots « vertige » tout au long de cet ouvrage qui paraîtra l'année prochaine aux éditions du Cerf. Alors, ce titre « vertigineux », ces questions avec tous ces mots de vertige, et notamment un mot que je ne comprends pas, « l'aporie », avec « l' apostrophe », Apori, c'est quoi tout ce questionnement sur les vertiges? Que se passe-t-il en vous pour que vous écriviez ça aujourd'hui?
Oui, le livre donc que j'ai travaillé et qui va paraître fin février, en effet aux éditions du Cerf à Paris, c'est un livre qui est le fruit d'un long aboutissement sur la nature même du questionnement philosophique.
Alors, ce sera compréhensible de chacun?
Oui, c'est un livre d'éveil à la philosophie. Bien sûr que le langage, il reste tout de même un peu abstrait parce que c'est de la philo. Mais c'est pas de la philo au sens universitaire, c'est-à-dire réservé à des initiés. J'ai essayé de montrer dans ce livre comment on peut, avec l'expérience du vertige, je vais vous dire un mot là-dessus, comment on peut entrer en philosophie par ce biais-là. Pourquoi ? Parce que, dès le départ de la philosophie en Grèce, les tout premiers philosophes ont affirmé que si on veut poser de bonnes questions philosophiques, il faut savoir s'étonner. Que l'étonnement, vous parliez de la curiosité tout à l'heure en citant Bernard Pichon, n'est-ce pas ? L'étonnement est le point de départ du questionnement philosophique. Parce que si on ne sait pas s'étonner, on trouve que tout va de soi. Et si on trouve que tout va de soi, on ne se pose pas de questions.
Et puis l'aporie avec l'apostrophe, ça veut dire quoi?
Alors, avant de vous parler de l'aporie, permettez-moi de passer de l'étonnement au vertige.
Oui, d'accord, pardon.
Parce que le vertige, au fond, c'est l'étonnement au carré, je dirais. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
C'est la perte aussi de confiance de soi, non?
Pas du tout la perte de confiance. Le vertige, ici, je l'entends au sens de être bouleversé intérieurement par une question importante qui touche le plus profondément notre être. Alors, on peut avoir le vertige d'exister en se demandant, mais est-ce qu'il y a toujours eu de l'être? Puis qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis né au XXe siècle plutôt qu'au Moyen-Âge? Pourquoi est-ce que je suis né en Suisse plutôt qu'en Chine? J'aurais pu être, après tout, un Indien au temps des conquistadors en Amérique du Sud, etc. Alors, on ne peut pas répondre au pourquoi je suis là maintenant, pourquoi je suis né de tel parent à tel moment donné. Il y a là un profond vertige. Pourquoi je suis moi et pas un autre? C'était une question philosophique que je me posais sans même savoir qu'elle était philo quand j'avais 7-8 ans. Je me disais, mais qui suis-je au fond? On appelle ça la contingence, comme disait Sartre, n'est-ce pas? La contingence, c'est le fait de pouvoir exister, du fait qu'on existe, mais on aurait pu ne pas exister. L'univers lui-même aurait pu ne pas exister. Et pourtant, je suis là. Quel est ce vertige? Alors, à partir de là, j'ai essayé de bâtir différents vertiges initiatiques au questionnement philosophique à propos de la vie tout court, le vertige de vivre. Qu'est-ce que c'est que ce vertige-là? Ou le vertige d'aimer? Dieu sait si, on parlait de la propension de l'homme à désirer le bonheur, Dieu sait si l'amour joue un rôle absolument fondamental dans notre vie. Quand on tombe amoureux, n'est-ce pas, Monsieur Fazan?
Oh, arrêtez!
Il y a une phase,
oui, je sais,
initiale où on perd complètement ses repères. Quel est ce vertige? Ou l'autre, tout d'un coup, bouleverse tellement notre vie qu'on ne pense qu'à ça, qu'on ne pense qu'à lui.
Et mais c'est délicieux, c'est le moment le plus intense de son existence. C'est ça le vertige alors?
Mais c'est ça au sens positif. C'est évidemment pas le vertige de douter, parce qu'il y a aussi un vertige du doute, évidemment, puisque on voudrait bien avoir la réponse, puis on patauge et on trouve pas. Alors on est un peu perdu, on perd ses repères, ça c'est le vertige au sens négatif. Mais le vertige au sens positif, c'est le vertige d'une découverte qui va nous apporter un certain bonheur dans l'existence, dans l'amour, dans la dignité, dans la liberté. Par exemple, le vertige du temps, n'est-ce pas ? Comme disait saint Augustin, si vous me demandez qu'est-ce que c'est que le temps, je ne sais pas vous répondre, mais quand je suis dans le temps et que j'y pense, je l'éprouve toujours. Alors quel est ce vertige du temps ? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas éternels ? Pourquoi est-ce que nous sommes dans le temps ? Et puis qu'est-ce que c'est le temps ?
C'est comme l'oxygène, il est présent.
Il est présent, mais il est très difficile de le définir. Ou le vertige quantique, j'ai fait un petit chapitre là sur la théorie des quantas de Max Planck, qui a découvert, au fond, enfin, qui a essayé de montrer en physique, quelle est la plus petite quantité d'énergie possible. Et puis qui a fait des calculs très savants pour arriver à ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire à définir la plus petite quantité d'énergie possible. Et alors, rapportant ça au vertige du Big Bang, puisque cette théorie hautement probable a été répandue depuis les années 30, après la théorie de la relativité d'Einstein, etc., on se trouve devant un double vertige. Le vertige de l'infiniment grand, puisqu'on sait que l'univers est en expansion, puis on ne sait pas jusqu'où et quand. Et puis d'un autre côté, le vertige de l'infiniment petit, puisque l'infiniment grand lui-même, d'après ses théories scientifiques, est né de l'infiniment petit, puisque au départ, au Big Bang, explosion originelle hautement probable, tout était concentré sur la plus petite quantité d'énergie incommensurable possible, qui ensuite, dans son éclatement, s'est transformée en matière, puisque d'après Einstein, l'énergie qui se refroidit se transforme en matière, E égale mc², vous connaissez. Et alors je me suis dit, pourquoi pas écrire un chapitre sur le vertige de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, ce qui donne ce chapitre, le vertige quantique.
Alors, j'aurais voulu que vous écriviez quantique, C-A-N peut-être, T-I-Q-E, pour que je comprenne davantage.
Mais on peut chanter la beauté de l'univers infiniment grand et infiniment petit. Qu'est-ce qu'ils font les cosmonautes lorsqu'ils veulent s'envoler dans l'espace, sinon vouloir explorer, faire l'expérience de regarder la Terre quand on la survole à 50 kilomètres? Ça doit être fabuleux comme expérience, non?
Ils ont été transformés. D'ailleurs, on le sait, ils ont été totalement... Ah oui, vertigineux. Michel Jonas, lui, chante la boîte de jazz. C'est notre cantique à nous.
Intérieur sur la première.
Un peu parti, un peu naze. Je descends dans la boîte de jazz. Histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. L'orchestre s'installe des professionnels.
Come on, boy.
Et c'est moi qu'ils interpellent.
Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, Parker, je connais Parker.
Hey, fils, le nom est Davis.
Aussi, le premier aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, Oscar Peterson. Rien ne l'entend, Scott Hamilton. Duke Ellington. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis.
Hey, fils, tu joues comme Jimmy Smith.
Merci, c'est sympa, merci. J'aime tous les
Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie.
Michel Jonas, c'était la boîte de jazz. On est toujours à Bulle chez le professeur. On vous appelle encore professeur François Gachou. On vous appelle encore comme ça, prof de philo.
Ça me fait sourire un peu parce que j'aime pas les titres. Alors, monsieur le professeur, non. Bon, c'est vrai que j'ai été prof, puis maintenant, j'ai changé d'activité. J'estime que la retraite est un temps privilégié qui consiste à continuer à être très actif, mais autrement, plus librement, et sans les obligations de donner 20 heures de cours par semaine et de corriger des piles de dissertations.
François Gachou, vous avez corrigé des piles de dissertations de garçons et de filles. Est-ce une question vertigineuse que celle-ci ? L'homme et la femme sont-ils égaux devant la philosophie ? Parce que la sexualité du penseur compte.
Égaux en droit, oui, mais en manière d'aborder les problèmes, non. Personnellement, bon, ce que je vais dire est tout à fait subjectif, mais c'est mon expérience dans l'enseignement. J'ai toujours trouvé que les filles, quand elles ont par exemple 18 ans,
question d'âge alors,
sont infiniment plus intuitives et profondes que les garçons. Et c'est vrai que pendant les cours de philo, j'ai toujours trouvé que les questions des filles allaient beaucoup plus loin. Non pas que les garçons soit à laisser de côté comme inapte à philosopher, pas du tout. Le garçon est peut-être...
En retard, c'est tout.
Oui, je pense en retard d'une certaine évolution psychologique. Mais j'ai eu des dissertations aussi de garçons extraordinairement bien construites. Le garçon est peut-être plus spontanément logicien, rigoureux. Ce qui ne veut pas dire que les filles ne soient pas à leur manière, mais elles ont peut-être plus de sensibilité. Elles sentent peut-être les choses plus profondément.
Et plus tôt.
Et plus tôt, oui, certainement plus tôt.
On monte à l'étage, François Gachou, parce qu'on avait dit qu'il y avait des choses à voir, et puis on terminera l'émission peut-être au-delà de l'escalier. Je vous suis, évidemment. Alors, je n'ai pas dit qu'il y avait des œuvres d'art partout. Il y a des œuvres de Cosandet, de Rime. Mais il y a des belles choses sur les murs, François Gachou. Vous avez vraiment bon goût. Ah, puis là, évidemment... le Parthénon, ou je sais pas.
C'est le temple d'Aphaïa à Égine, qui est une île de la mer Égée, pas très loin d'Athènes.
C'est une photo.
Et puis j'ai été faire des voyages en Grèce lorsque j'étais un grand amoureux de l'archéologie. Et puis j'ai pris quelques photos.
C'est de vous.
Oui. Et là, vous avez le temple d'Aphaïa à Égine, et puis je l'ai fait agrandir. Et puis là, vous avez des sommets que j'ai gravis dans les Alpes. Là, par exemple, c'est le Weisshorn, c'est sur l'arête nord. C'est une ascension extraordinaire, aussi belle que le Cervin ou l'Aiguère.
Ou la philosophie.
Ou la philosophie, qui est aussi une ascension quelque part, n'est-ce pas?
Là, un vélo de chambre.
Oui, c'est mon vélo d'entraînement. Chaque matin, j'ai des problèmes avec mes genoux et mes hanches, alors je pédale sur ce vélo, et ainsi je me sens en bonne forme pour plonger dans les livres.
Oui, alors derrière vous, là, il y en a plein de livres. Et mon Dieu, mais je peux pas dire tout ce que je vois, évidemment.
Alors ici, bon, vous avez des ouvrages d'art sur des grands peintres. Ici, j'ai deux grands ouvrages sur l'art égyptien, l'art grec. Là, j'ai un Picasso, un album assez complet, avec des catalogues aussi d'expositions. Il y a Paul Klee, il y a Braque, il y a Rodin, il y a les icônes russes, ça c'était chez Giannada. n'est-ce pas? Puis, par exemple, ici, Ramsès le Grand, l'exposition
du Grand Palais.
Du Grand Palais en 76. Alors, j'ai toutes les photos, etc. Puis d'autres peintres. Là, j'ai alors toute une bibliothèque sur la poésie.
Alors, on a surtout envie de vous poser cette question parce que la philosophie est essentiellement grecque, mais les latins ont, oulala, dans l'autre pièce, là-bas, il y a de nouveau un mur de livres. Alors, on va peut-être y aller. On change d'endroit. Vous êtes davantage grec que latin. On peut pas être exactement les deux.
Ben écoutez, on peut admirer les latins bien entendu, mais je pense que les latins doivent beaucoup aux grecs, parce que la civilisation grecque a précédé la civilisation romaine, et les romains ont beaucoup reçu des grecs, ça c'est évident, ils l'ont aussi magnifié, ils en ont été reconnaissants, je pense par exemple à Cicéron. Cicéron qui a écrit des traités de philo et de rhétorique qui sont aussi beaux que les traités des grands philosophes grecs. Mais je pense que la philosophie, le théâtre, l'architecture, la sculpture, c'est vraiment d'abord une invention grecque. Ce qui ne veut pas dire que dans d'autres civilisations qui les ont précédées, comme l'Égypte, il n'y ait pas eu aussi, ou la Syro-Babylonie, des chefs-d'œuvre indépassables. Mais nous sommes européens et puis nous venons de cette matrice-là. D'où alors, mon amour pour les Grecs.
Oui. Alors, François Gachou, il y a peut-être un livre carrefour. Vous qui aimez et avez enseigné la littérature aussi, il y a Adrien, il y a tout, il y a l'écriture, le français, l'admirable plume de Marguerite Yourcenar et les mémoires d'Adrien. Est-ce un livre qui compte pour vous comme il a compté pour moi?
Oui. Oui, les mémoires d'Adrien est un livre absolument exceptionnel. Parce que Marguerite Yourcenar a réussi à nous faire entrer dans ce qu'on pourrait appeler l'âme romaine à travers cet empereur gigantesque qu'a été l'empereur Adrien, qui avait désiré au fond la paix romaine et puis qui avait, au niveau aussi de ses écrits propres et de son activité personnelle, laissé quelques trésors que Marguerite Yourcenar a su restituer de manière à la fois fidèle et inventive.
Et tellement belle plume intemporelle, je sais pas comment dire, inspirée, c'est 2000 ans d'écriture et une perfection francophone, française absolue. Et c'est une écrivain belge.
Oui, c'est une écriture exceptionnelle, en effet. Marguerite Yourcenar a été la première femme, d'ailleurs, reçue à l'Académie française. On parlait de Marion à l'Académie française, mais je pense que Yourcenar était à sa manière un géant de l'écriture, oui.
Que faisons-nous ici dans ce bureau avec tous ces livres? Qu'est-ce que vous aimeriez me montrer, François Gachou?
Écoutez, je vous montrerai peut-être d'abord ici... Tous ces documents...
Qu'on m'a donné, dans des chemises.
Qui sont dans des chemises et dans des cartons. Tout ça, ce sont des cours que j'ai composés pendant 35 ans d'activité.
Vous avez tout gardé?
J'ai tout conservé. Oui, j'ai tout conservé. Tous les cours que j'ai donnés d'année en année et composés, je les ai mis là dans des classeurs et tout est là.
Mais c'est une muraille de Chine. Ça, le jour où vous ne serez plus que poussière, ces choses-là, elles iront où? Dans une bibliothèque dans le canton de Fribourg?
Alors, j'en sais strictement rien.
Mais il faut le léguer.
Je laisserai mon fils, qui est comédien, s'en occuper.
Oh, bah, il va se réchauffer le jour où il aura froid.
Peut-être, oui, ça, il n'y a aucun problème. Il gardera ou conservera ce qu'il désire. Et puis, vous savez, moi, j'ai pas écrit des choses qui vont nécessairement rester, hein. Je me fais pas d'illusions là-dessus. J'ai été, j'espère, un modeste passeur, essayant de faire passer le génie des autres le mieux possible.
Et en le vulgarisant de temps en temps quand même.
Oui, alors bien sûr, j'étais plutôt un vulgarisateur qu'un créateur, même si j'ai écrit 3-4 bouquins auxquels je crois, auxquels je tiens, voilà. Mais je dois tellement à des gens qui sont infiniment plus intelligents que je ne l'aurais jamais été, que voilà. Alors ici, bon, vous avez des...
Tout le monde.
De philosophie, il y a environ un millier de volumes. Et c'est à peu près tous ces livres que j'ai lus durant 30 ou 40 ans d'activité dans le domaine philosophique. Puis je continue parce que je reçois pas mal de bouquins. Je sais d'ailleurs plus où les mettre parce que j'ai fait construire cette bibliothèque en arrivant ici il y a quelques années. Puis vous voyez, elle est presque pleine.
Mais derrière nous, il y a encore des armoires, mais il y a encore un peu de place chez vous, elle est grande votre maison. Oui. Et puis je vois un livre qui symbolise la vulgarisation absolue de la philosophie, c'est Le Monde de Sophie.
Mais oui, Le monde de Sophie, alors, c'est une trouvaille. Je dois dire que Jostein Garner, qui était prof de philo, au Danemark, voilà, je cherchais où il avait été prof, a écrit une initiation à la philosophie en forme
un best-seller, roman,
qui est devenu un best-seller mondial, traduit dans je ne sais combien de langues. C'est un trait de génie, ce bouquin, parce qu'il a su dans ce livre partir du questionnement d'une fille de 15 ans, n'est-ce pas, sur la philosophie, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on en fait. Et puis il a construit ce roman policier dont je ne saurais plus vous retracer maintenant la trame, parce que j'ai un peu perdu la mémoire à propos de l'histoire et même de ce livre. Mais en tout cas, c'est un livre fort intéressant et très pédagogique.
François Gachou, vous êtes un penseur ou vous êtes... je voudrais pas vous abaisser, vous êtes l'esclave des grands. Et tout simplement l'homme qui donne à comprendre les tout grands, les monuments, les géants de la civilisation.
Oui, moi je crois qu'il faut rester tout simplement modeste. Ces gens-là nous ont tellement apporté quand il s'agit de Platon, de Kant, de Hegel, de Heidegger, ou de certains philosophes français que j'aime beaucoup, comme Derrida, Michel Foucault. C'est vrai que ces gens ont été des défricheurs, en même temps des inventeurs de génie, puis il faut s'incliner devant tout ce qu'ils nous ont apporté. Et je trouve très, très beau de pouvoir faire passer le génie de ces gens.
Donc pas penseur, mais passeur.
Je dirais que j'essaye d'être un penseur, c'est pour ce que j'ai écrit quand même quelques livres personnels, mais je suis plus un passeur, je crois, parce que je crois qu'il faut d'abord savoir faire aimer les plus grands que soi, tout simplement.
Vous avez compris votre mort à venir ?
Pas du tout. J'essaye de m'y préparer quand même. Pourquoi ? Parce que les philosophes stoïciens, notamment, se sont posé cette grande question. Finalement, comment se préparer à mourir ? Platon disait même que philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça ne veut pas dire qu'il faut y penser tout le temps et devenir complètement tendu devant cette problématique qui nous échappe. Parce qu'on ne sait rien de notre mort. On ne sait surtout rien de ce qui la suivra. On sait simplement au moins que notre corps ne nous appartiendra plus et qu'il se décomposera. Quant à l'âme et à l'esprit, c'est une toute autre affaire. Moi, je crois en l'immortalité de l'homme, à partir de Socrate, qui lui-même disait « Mais finalement, est-ce que la mort n'est pas peut-être le plus grand des biens, alors qu'on croit que c'est la fin de tout ?» Et Socrate répondait par là à des philosophes de son temps qui étaient sceptiques et qui disaient qu'au fond, il n'y a pas de capacité de faire perdurer la personne humaine au-delà de cette fameuse mort. Moi, j'admire beaucoup des gens comme Montaigne, des gens comme Bouddha à propos de la mort. Parce que Montaigne, dans un premier temps, lorsqu'il écrivait ses essais, on voit dans le premier livre qu'il était tout à fait stoïcien. C'est-à-dire qu'il faut y penser beaucoup à la mort pour ne pas avoir peur de celle-ci. Il faut essayer de conjurer, au fond, la mort. Et puis, à la fin de sa vie, Montaigne a évolué. Et dans le troisième livre, on voit qu'il dit « Mais moi, j'admire la façon dont les paysans de mon coin de terre meurent. Ils ne se posent pas trop la question de la mort. Et puis, quand elle vient, ils l'accueillent comme une loi de nature. Ils l'accueillent même avec une certaine sérénité. » Et je pense que cet itinéraire de Montaigne est très intéressant parce qu'il nous montre qu'au fond, il faut exorciser la mort peut-être, mais surtout la peur de la mort pour mieux vivre jusqu'au bout notre vie terrestre. Et donc, ne pas se préoccuper de la mort, mais apprendre à vivre jusqu'au bout, même si avec l'âge et le temps, et l'âge vient chez moi, j'aurai bientôt 70 ans, même si l'âge venant, on y songe un peu plus, en découvrant mieux la finitude, et puis cette échéance. Mais je crois qu'on peut travailler à sa propre sérénité intérieure, petit à petit, sans faire le malin, bien entendu. Parce que moi, je ne sais pas au dernier moment comment je vais me comporter. Ni vous non plus, d'ailleurs.
Poliment et dignement. Tous les deux. Merci François Gachou de nous avoir reçus ce dimanche soir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre avec une belle personnalité comme vous, je l'espère. À très bientôt, je vous souhaite une belle nuit et on se quitte là-dessus. À très bientôt.
Merci Daniel Fazan, merci beaucoup.
Sur Radio Suisse Romande, la première, il va être minuit dans quelques secondes. On se quitte ici et on se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouverez des rigolos juste après. Ça, c'est une forme de philosophie aussi et de distance. C'est à quoi concert, c'est Jean-Charles Simon et Patrick Lapp, au-delà des informations de minuit qui tombent à l'instant. Merci, bonne nuit. Il est minuit.